Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Au sommaire de ce 73e numéro de Force 7, la ville de Manosque honore les personnels de son hôpital et récompense les héros soignants. L'occasion de faire le point sur l'établissement, nous écouterons Franck Pouilly et Camille Galtier. Sous-préfète de l'arrondissement de Fort-Calquier depuis 2 ans, Nathalie William quitte la Provence pour Paris, son interview pour Force 7. À Sisteron, la ville s'anime avec les commerçants. Chris Alessandri a interviewé Nicolas Logier qui préside leur association. Le projet Biodival peut clôturer à Manosque. Des entreprises ont été encouragées à protéger la biodiversité. Reportage à la fin de ce magazine. Manosque, la ville récompense les héros de son hôpital.
Camille Galtier, maire de Manosque, a remis un chèque de 13 800 euros au directeur de l'établissement, Franck Pouilly, pour saluer la mobilisation et le dévouement des 900 personnes qui y travaillent. En fait, pour chacun, un bon d'achat de 15 euros dans les commerces de la ville. Et cette occasion a permis de faire le point sur la situation de l'hôpital Louis Raffali. Plusieurs signaux passent à l'orange, ainsi les urgences qui ont connu des fermetures répétées cet été n'ont pas vu d'interruption pendant près de 2 mois, même si la tension reste palpable et que le service sera encore fermé les nuits des 24 au 27 décembre. Des recrutements de spécialistes sont engagés avec aussi des praticiens non européens à Digne et Manosque, précise Franck Pouilly, qui dirige le GHT, groupement hospitalier de territoire, comprenant la quasi-totalité des établissements du 04. Un système d'assistants partagés avec les CHU, sorte d'alternance, est également envisagé, et la montée en puissance de la maison médicale de garde, qui affiche 25 à 30 passages quotidiens, les dimanches et jours fériés, contribue à alléger le travail des urgences. La télémédecine se développe également et des locaux de la CCI 04 accueillent désormais à Manosque des formations d'aides-soignants assurées par l'IFSI. Côté équipement, on retiendra une salle et du matériel pour la radiologie et surtout l'arrivée prochaine d'une seconde IRM, un dossier à 5 millions d'euros avec des aides de l'Europe, la région et l'ARS, et dans un local de 180 mètres carrés dédié, fonctionnel et attenant à l'hôpital. L'État a mis la main à la poche pour sauver l'hôpital public, enfin est-on tenté de dire, car la tension des 2 dernières années reste présente à l'heure où, après le Covid, la grippe et la bronchiolite s'invitent sur le front sanitaire. De son côté, Camille Galtier, maire de Manosque et président du conseil de surveillance de l'établissement, souligne les changements à venir dans sa ville, comme le déménagement du centre de santé Auxances suite au projet de renouvellement urbain des quartiers sud, où seront également installés les centres médico-social du département et le centre municipal social. Le bâtiment de l'actuel CCAS de la ville pourra alors accueillir des médecins déjà installés à Manosque, dans ses locaux libérés et accessibles. La ville entend aussi attirer de nouveaux médecins avec une aide forfaitaire de 50 000 euros. Franck Pouilly puis Camille Galtier évoquent ces sujets. Franck Pouilly, vous dirigez l'hôpital de Manosque notamment. Comment se porte cet hôpital ?
Alors en fait, c'est un établissement qui est plutôt en phase d'augmentation de son activité, notamment sur la partie médecine. On a récemment recruté donc 9 nouveaux médecins qui vont à la fois travailler sur Manosque, mais aussi sur l'ensemble du territoire. Donc on les a rencontrés, on essaie de recruter pardon, sur des spécialités qui manquaient sur le territoire. Donc on a pu rencontrer une neurologue, donc très importante, qui travaille à la fois sur Manosque et sur Digne. On a pu recruter un spécialiste de médecine interne, à la fois un infectiologue, donc ce sont des gens qui travaillent notamment sur les pathologies du Covid qu'on a pu connaître précédemment, mais qui malheureusement sont en train de revenir à travers la 9e vague. Et puis on a recruté des spécialistes de médecine physique de rééducation, puisqu'on va ouvrir un soin de suite et réadaptation nouveau en hôpital de jour à Fort-Calquier. Et voilà, donc on a réussi comme ça petit à petit, après 3 ans de travail avec la faculté de Marseille, avec des recherches, avec le docteur Tiberville, à pouvoir recruter l'ensemble de ces médecins. Et le hasard a voulu que le calendrier se précipite sur le mois de septembre-octobre 2022.
Vous développez également des formations, avec notamment des formations pour les aides-soignantes.
Alors voilà, l'hôpital de Digne a le bénéfice d'une école, d'un institut de formation, dans lequel il y a 2 branches, des infirmières qui sont formées en 3 ans et des aides-soignants qui sont formés en 1 an. Jusque-là, tous les aides-soignants étaient formés exclusivement sur l'hôpital de Digne et sur le site de Digne, avec des stages sur tout le département. Et avec le maire de la ville, de principe, ça a été de pouvoir déployer l'école des aides-soignants sur la ville de Manosque. Donc avec un accord de la région, on est passé d'un quota de 35 aides-soignants à 50 aides-soignants formés sur le département. Et on a divisé ce quota en 2 parties, 25 sur Digne et 25 sur Manosque. Donc ça permet à la fois de recruter une population plus localement. Et puis on a décalé ce qu'on appelle les entrées, les recrutements. On commence une des entrées scolaires en septembre et une des entrées scolaires, c'est-à-dire en janvier, sur Manosque. Donc on aura à la fois 2 zones de recrutement et 2 espaces de recrutement différents.
Avec un espace de formation qui est en dehors de l'hôpital.
C'est ça, c'est-à-dire que la crise du logement de l'hôpital, puisque si on recrute des médecins, ça demande des locaux, et donc on est obligé un peu de pousser les murs. Donc on a acheté autour de Crimalide une surface de 200 mètres carrés dans laquelle on a mis des salles de formation. Et ces salles de formation, elles servent pour l'hôpital, bien sûr, mais on travaille avec beaucoup d'associations, notamment des associations sur les soins palliatifs, sur les aidants, sur le diabète, etc. Et donc, on peut travailler avec eux et on leur prête régulièrement ces salles.
2022 a été marqué par des investissements et ça suivra en 2023, notamment un nouvel IRM.
C'est ça. Alors, l'hôpital de Manosque bénéficiait de 2 scanners et d'une IRM 3 Tesla, pardon. Et en fait, on va acheter une nouvelle IRM 1,5 Tesla qu'on va mettre dans la cour arrière de l'hôpital, donc avec un bâtiment sur 2 niveaux. Et normalement, donc maintenant que le permis de construire a été accordé cette semaine, donc on va pouvoir attaquer les travaux en janvier et normalement finir l'ensemble et ouvrir au public à partir de juin 2023.
Et puis la maison médicale de garde est arrivée à son rythme de croisière et qui soulage aussi les urgences.
Oui, alors c'est un grand remerciement vers les médecins de ville parce que l'association qui a été créée avec à peu près 18 médecins qui sont à l'intérieur et qui viennent tous les dimanches, tous les jours fériés travailler à l'hôpital de Manosque. Donc pour les patients qui arrivent aux urgences, on a un tri, les patients les plus légers vont être pris en charge par cette maison médicale de garde. Le rythme de croisière, c'est aujourd'hui 30 de patients tous les dimanches. Donc ça permet de à la fois soulager les urgentistes et à la fois d'aller plus vite dans la prise en charge pour les patients.
Côté épidémie, il y a eu le Covid, il y a un petit peu la grippe et maintenant il y a la bronchiolite.
Alors beaucoup, la bronchiolite malheureusement, ça fait 8 semaines qu'on est sur une augmentation épidémique. On a atteint cette semaine un pic épidémique, mais malheureusement le 0,4 et le 0,5 sont des départements qui sont en décalage de phase. Donc le pic épidémique a été ressenti fortement sur le 06, le 84, 83 et 13. Et jusque-là, on avait été épargné. Depuis 3 jours, on est rentré dans une épidémie forte sur le 04. Et pour donner un ordre d'idée, on avait 7 lits de pédiatrie avec 1 cas de bronchiolite. Depuis 2 jours, on a 11 lits de pédiatrie avec 7 cas de bronchiolite. Et ce sont des cas de bronchiolite dans lesquels on distingue les enfants entre 0 et 6 semaines et entre 6 semaines et 2 ans, puisque entre 0 et... Donc entre la naissance et les 6 premières semaines, la bronchiolite demande une hospitalisation plus longue. Donc aujourd'hui, c'est un sujet épineux et qui va nous entretenir encore pour quelques semaines.
À vos côtés, le maire de Manosque, Camille Galtier, très au fait de la situation de son hôpital.
Déjà, remercier le personnel de l'hôpital qui, depuis 3 ans maintenant, est dans une situation que l'on appelle d'urgence, puisque à chaque vague, évidemment, il est sursollicité. Maintenant, il y a les épidémies de bronchiolite. Et je crois féliciter les équipes administratives de l'hôpital avec les recrutements qui ont été faits, qui ont été gérés en même temps que toutes les crises que l'on vit depuis 2020, tout en ayant aussi des plans d'investissement pour l'avenir, à savoir, comme l'a indiqué le directeur de l'hôpital, un volet de remplacement sur la radiologie, un déploiement d'un nouvel IRM et des extensions qui sont programmées et à prévoir dans les prochains mois. Donc une équipe au travail depuis de nombreux mois et avec des résultats qui arrivent au fur et à mesure, parce qu'évidemment ça ne tombe pas du ciel comme par enchantement.
Du côté de la ville, il y a évidemment des médecins de ville qui partent en retraite. Il y en a d'autres qui vivent dans des conditions difficiles et inaccessibles pour notamment les personnes âgées. Et vous avez un projet particulier à leur endroit.
Le but est de garder le maximum de médecins, évidemment, sur la ville de Manosque, d'en faire venir, évidemment, de nouveau. Et pour cela, il y a une évolution. C'est vrai que les médecins ne veulent plus ouvrir un cabinet en étant seuls et prévoient des regroupements. Alors parfois, ces regroupements sont à l'intérieur de centres de santé, de maisons de santé, avec un parcours médical. Et après, parfois, il y a juste des pôles de santé où des médecins libéraux, totalement séparés, sont dans des mêmes lieux. C'est ce que nous voulons proposer sur la fin d'année 2023 avec l'aménagement de locaux, notamment sur le centre communal d'action sociale de la ville, avec une optimisation des locaux. Et à terme, ce même centre communal d'action sociale, CCAS, déménagera en 2026 pour faire une maison des solidarités communes avec le département.
Donc des projets importants et structurants pour votre ville.
Des projets structurants qui, je crois, permettront d'avoir une amélioration de l'accès à la santé et à l'offre de soins. Je crois que c'est l'une des priorités les plus prégnantes au sein de la population, surtout depuis le Covid, depuis 2020. Donc il faut parfois y répondre, parfois on peut et on le fait. Parfois, malheureusement, ça prend plus de temps. C'est notamment le cas sur la question des médecins, puisqu'on sait qu'un médecin ne se forme pas en quelques mois, il se forme en plusieurs années, et que forcément le déficit structurel que nous avons depuis les années 80 ne va pas se combler d'ici 2025. Donc il faut essayer de temporiser et de faire ce que l'on peut faire.
Aujourd'hui, Camille Galtier, vous êtes à l'hôpital de Manosque et vous avez voulu saluer l'engagement des soignants, de toute l'équipe de l'hôpital Louis Raffali, en apportant un écho particulier.
Oui, comme on le fait depuis 2020, à savoir une opération qu'on a appelée OSCO Hero. C'est le fait de remettre à chaque personnel soignant de l'hôpital de Manosque un chèque de 15 euros à consommer dans les commerces du centre-ville de Manosque ou de proximité, à savoir les petites cellules commerciales. Je pense que c'est un geste pour eux de reconnaissance avant tout, puisque ce n'est pas 15 euros qui vont changer leur pouvoir d'achat. Mais par contre, c'est un geste, une pensée pour eux, parce qu'évidemment, on pense à eux en toutes circonstances. Et dans le même temps, ça permet aussi d'avoir des retombées économiques sur le centre-ville.
Nathalie William sur le départ.
Nommée sous-préfète de Fort-Calquier en octobre 2020, Nathalie William a rejoint le ministère des Outre-mer à Paris, où elle participera à gérer des dossiers très délicats. Elle en parle dans un instant. Une réception conviviale a eu lieu à Fort-Calquier pour saluer la personnalité attachante d'une femme de contact et une grande serviteur de l'État. Daniel Spagnou pour les maires du département, puis le préfet Marc Chapuis, ont rappelé le travail effectué pendant son séjour fort-calquérin, du plan de relance à promouvoir et appliquer au dispositif Petite Ville de Demain ou Action Cœur de Ville, elle a sillonné le 04 avec passion. Son arrivée en pleine pandémie l'a contrainte à organiser des centres de vaccination et contribuer à gérer une situation inhabituelle. Puis il y a eu la transition écologique, la sécurité civile, sans oublier plus près de nous, la sécheresse et des feux de forêt cet été, ou un exercice de sécurité au barrage de la Laye. Une activité soutenue à laquelle s'ajoutent les nombreuses visites de ministres sur le terrain et même d'Emmanuel Macron pour l'événement agricole des Terres de Gym à Corbières en septembre 2021. Dans tous ces rendez-vous, pour tous ces dossiers, Nathalie William a fait preuve d'écoute, de professionnalisme et d'empathie envers les acteurs des territoires. Les élus étaient nombreux pour la saluer ainsi que les services de l'État et particulièrement les forces de sécurité et les pompiers. Et dans l'assistance, un habitant de Fort-Calquier, qui fut un temps son ministre de tutelle. Christophe Castaner a contribué à donner une touche particulière au séjour préfectoral de Nathalie William dans sa ville. Je vous propose d'écouter l'ultime interview accordée par Nathalie William, qui a quitté un instant son cocktail de départ pour répondre à mes questions. Nathalie William, quelle image vous allez garder des Alpes de Haute-Provence et du canton de Fort-Calquier ?
Une image indélébile, une excellente image. Je n'ai que d'excellents souvenirs dans cet arrondissement. Évidemment, ses paysages, sa lavande, sa qualité de vie, sa joie de vivre, évidemment, mais bien au-delà de la carte postale, ce que je retiens, ce sont toutes les personnes que j'ai pu croiser durant ces 2 années et qui m'ont toutes fait confiance, d'une part, et qui m'ont transmis leur amour de leur territoire.
Ils vous ont également remercié pour tout le travail très professionnel que vous avez fait sur le territoire.
Oui, je tiens à les en remercier. Ils sont venus nombreux ce soir. Et pour moi, ça signifie beaucoup. Et voilà, donc je suis très, très émue et heureuse qu'ils aient pu participer à ce pot organisé en l'honneur de mon départ.
Alors Fort-Calquier, c'est un endroit un peu particulier parce que quand même, sous-préfète à Fort-Calquier, dans l'endroit où réside votre ministre de tutelle, c'est spécial.
Je vous confirme. C'est ainsi d'ailleurs que la mission m'a été présentée lorsqu'on me l'a proposée en août 2020. J'ai bien pris conscience que c'était une marque de confiance qui m'était faite en me nommant ici à Fort-Calquier. Et évidemment, je l'ai honorée et j'étais très heureuse de ces 2 ans à Fort-Calquier.
Vous allez être dans un autre poste à la Direction Générale des Outre-mer, avec bien des territoires qui sont parfois en souffrance. Il n'y a pas uniquement Tahiti et les îles Marquises. Hein. Il y a Mayotte, il y a la Nouvelle-Calédonie, quoi d'autre encore, la Guadeloupe, etc. Un poste difficile quand même.
Oui, un poste à enjeu. Je travaillerai en tant que chargée de mission auprès de la directrice générale du ministère des Outre-mer. Et précisément, mes 2 principaux dossiers seront ceux que vous avez cités, la Nouvelle-Calédonie et son évolution institutionnelle, et la question de Mayotte, qui connaît aujourd'hui une période de très forte turbulence.
On vous souhaite une pleine réussite dans cette nouvelle fonction. On vous reverra sur Fort-Calquier.
Ah oui, j'espère bien pouvoir revenir, parce que vous allez me manquer.
Noël à Sisteron avec l'APAX.
Le marché de Noël de Sisteron ouvre ses portes du 16 au 23 décembre et comme chaque année, c'est toute une ambiance de fête que propose l'APAX, Association des commerçants sisteronnais. Du sapin enchanté aux parades de chars, les animations et nouvelles attractions ne manquent pas pour cette nouvelle édition. L'Association des commerçants propose également aux plus jeunes de retrouver la magie des contes de Noël avec une conteuse d'histoires fantastiques qui les accompagnera tout au long de ces journées. Le tout rythmé en musique avec la déambulation de plusieurs groupes, chorales et fanfares, sur les places et dans les rues de Sisteron. Nicolas Laugier, président de l'APAX, répond aux questions de Chris Alessandri.
Donc oui, Noël à Sisteron, c'est très important et ça a déjà d'ailleurs commencé puisque depuis fin novembre, nous avons la boîte aux lettres du Père Noël que nous avons accueillie sur l'avenue Paul Arène au niveau de la banque du CIC, donc la boîte aux lettres du Père Noël où j'invite tous les enfants à venir déposer leur grande liste et bien entendu, le secrétariat du Père Noël et de l'APAX répondra à tous les enfants et ce jusqu'au 20 décembre, donc continuez encore sur les quelques jours qui restent à venir porter vos courriers nombreux. Une réponse est assurée, comme je dirais. Pensez par contre à bien mettre les adresses des enfants. L'association des commerçants a le souhait vraiment de rendre ce marché de Noël au plus près des commerces, de manière à créer une vraie dynamique avec le tissu commercial. Le marché de Noël était organisé dans le passé par le comité de jumelage Herbolzheim, qui continue à nous accompagner, à nous aider. D'ailleurs, je les remercie pour leur travail chaque année à nos côtés pour décorer le marché de Noël ou le village de Noël, puisque depuis 2019, hors année Covid, on a lancé avec la mairie de Sisteron un second rendez-vous qui sera situé donc place de la gare routière avec le manège Sapin Enchanté, qui est l'attraction de cette année, et le marché de Noël, lui, sera situé place Paul Arène. Donc cette année, le mois de décembre et Noël, bien bien entendu, les fêtes de fin d'année sont très importantes pour le commerce sisteronais. On a mis en place un programme très important, puisqu'on a commencé depuis le week-end dernier, donc samedi 10 et dimanche 11, le Père Noël prenait place dans le studio photo rue droite. On offrait une photo aux enfants et aux parents. Il y avait des créneaux aussi horaires où une conteuse prenait lieu pour raconter quelques histoires féeriques, bien entendu, des histoires de Noël. Ça continuera aussi jusqu'au 23 décembre. Tous les jours, il y aura un nouveau rendez-vous. Donc, le village de Noël est ouvert du 16 décembre au 23 décembre. Le village de Noël sera situé place de la gare routière avec l'attraction, donc le sapin enchanté. Les grands et les petits pourront monter à l'intérieur des boules et partir faire un tour de sapin. Le vendredi 16 décembre, bien entendu, il y aura l'inauguration à 18h en présence de monsieur le maire, de monsieur le préfet des Alpes-de-Haute-Provence et de notre marraine, Nathalie Vincent, qui sera présente. Juste avant, à 17h30, on partira de la place du Dauphiné pour faire une retraite au flambeau avec tous les enfants à travers les rues commerçantes jusqu'à la place de la gare routière où aura lieu l'inauguration à 18h et ensuite un lâcher de lanterne pour illuminer le ciel sisteronais. Après, on aura des rendez-vous tous les jours, le samedi 17 avec le studio du Père Noël et la chorale des clubs du Capucin que je remercie pour leur participation. Le dimanche, on retrouvera la parade de la Reine des Neiges avec Olaf et le Père Noël, bien entendu. Tout ça en ambiance musicale avec le Double Dièse et Frédéric Younes. Le lundi 19, on retrouvera la conteuse d'histoire en présence du Père Noël au local rue droite. Le mardi 20 décembre, on retrouvera au local rue droite les photos avec le Père Noël et ça sera l'ouverture du marché de Noël, lui, place Paul Arène, pendant 3 jours. Donc mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22, place Paul Arène, où une trentaine d'exposants prendront place en plus déjà de la quinzaine d'exposants qu'il y aura sur le village de Noël, place de la gare routière. Et on terminera bien entendu avec le vendredi 23, une déambulation musicale dans les rues avec Jolly Fusil Gospel qui viendra nous faire des beaux chants de Noël.
Et on peut dire vraiment qu'il y a cet impact, hein, parce que là, les personnes attendent le marché de Noël. Le flux des visiteurs, il est constant, il est toujours là.
Oui, le marché de Noël de Sisteron, au fil des années, on a recréé une identité, une dynamique avec le commerce de proximité. C'est un petit peu l'axe qu'on a voulu donner à ce marché de Noël, qu'on a repris donc après Herbolzheim. Un rendez-vous donné, après le marché de Noël, sans animation et sans événement. Pour Sisteron, ça ne serait pas envisageable. Et là, on essaye vraiment de coordonner nos animations en fonction du marché de Noël et bien entendu le marché de Noël s'adapte aux animations. C'est pour ça que les jours ne se ressemblent pas, il y a toujours une nouveauté, il y a toujours quelque chose supplémentaire tout au long de cette semaine et cette année, puisque les vacances scolaires, on aura une semaine complète de vacances scolaires. C'est pour ça qu'on a voulu, avec la municipalité, avec monsieur le maire, que je remercie pour tout le soutien qu'il nous apporte tout au long de l'année et encore plus pendant ces périodes de Noël, avec les contraintes énergétiques qu'on puisse connaître, on a concentré un maximum d'événements sur une période la plus courte possible, mais qui va marquer les esprits et qui sera vraiment féerique. On a essayé de vraiment faire un maximum d'efforts. En plus de tout ça, côté commerce, on rajoute pas mal de tombola, puisqu'on va retrouver le traditionnel jeu des 4 tampons avec 1000 euros de chèque cadeau à gagner. C'est un jeu traditionnel pour la PAX, Association des commerçants de Sisteron. On fait tamponner son bulletin de participation à 4 commerces différents adhérents à l'association. On remplit, on le met dans l'urne centrale qui est positionnée devant la maison de la presse et on peut avoir la chance de gagner 1000 euros de chèque cadeau. Et cette année, on a relancé la grande tombola des commerçants avec un séjour à Euro Disney pour 2 adultes et 2 enfants à gagner. Les tickets sont en vente chez tous les commerçants participants au prix de 3 euros le ticket. Bien entendu, les tirages au sort de ces tombolas seront faits pendant le loto des commerçants qui lui aura lieu le dimanche 8 janvier à l'entracte, où là encore les commerçants ont réservé leur plus beau lot, puisque dans le passé on arrivait à aller jusqu'à 8000 euros de lot. J'espère que les commerçants n'ont pas oublié ça pendant le Covid et répondront présent, mais j'ai aucun doute là-dessus. On fera un grand loto de Noël des commerçants. Voilà, une ambiance concrète pour vraiment rendre ces fêtes de fin d'année les plus joyeuses possibles, malgré tout ce qu'on peut connaître depuis quelques années, que ce soit des crises sanitaires avec le Covid ou autres crises comme l'énergie et bien d'autres, je ne vais pas énumérer. Ça, on n'est pas là pour ça, mais voilà, on l'a en tête et on veut le faire oublier pendant, certes, une courte durée, mais on veut le faire oublier et que la magie de Noël rende nos yeux pétillants. Donc rendez-vous pour le marché de Noël et le village de Noël. Donc village de Noël, place de la gare routière du 16 au 23 décembre et rendez-vous marché de Noël du 20 au 22 décembre, place Paul Arène. On vous attend dans les rues commerçantes de Sisteron.
biodiversité, des entreprises sensibilisées et volontaires.
Au départ, il y a un programme européen transfrontalier France-Italie pour protéger et valoriser la biodiversité. Pendant 3 ans, le projet ProBiodiv s'est déroulé sous la houlette de l'ARB, Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, et les chambres de commerce et d'industrie régionales et départementales. 3 entreprises des Alpes du Sud ont été retenues et ont planché sur le sujet. Nous entendrons leurs dirigeants dans un instant. Plusieurs jours d'accompagnement au sein des entreprises ont été suivis avec intérêt et assiduité par les salariés de chaque société. Sensibilisation à un développement soutenable de leur activité et échanges poussés sur la biodiversité furent au programme et ont marqué les esprits. L'éco-campus de Sainte-Tulle a accueilli une réunion de Biodivalp pour des retours d'expérience très positifs. Je vous propose d'écouter Frédéric Pétainian de l'Agence pour la biodiversité sur ce projet européen et son opportunité, puis Daniel Simonato de la CCI 04 qui, avec ses collègues Estelle Vialet pour les Hautes-Alpes et Laure Nervy de la Chambre régionale, a souligné l'engagement des consulaires sur ces questions, notamment via la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Frédéric Pétainian pour l'ARBE, vous pouvez nous expliquer ce qui est Biodivalp ?
Le PITEM Biodivalp, c'est un projet intégré thématique qui porte sur la protection et la valorisation de la biodiversité sur le territoire alpin. Les activités qui ont été mises en œuvre ici concernent le projet européen ProBiodiv, qui consiste à promouvoir la biodiversité comme facteur de développement durable des territoires alpins.
C'est un projet européen, donc, avec des financements à la clé, je suppose ?
Oui, des financements européens basés sur le fonds Interreg Alcotra, Alpes latines de coopération transfrontalière, qui concerne les projets franco-italiens.
Et des entreprises françaises ont travaillé avec des entreprises italiennes et inversement ?
Non, pas forcément. On s'est concentré ici sur des actions et des accompagnements d'entreprises du territoire alpin du côté français.
Quel était le cahier des charges pour cette opération ?
Le cahier des charges, c'était de permettre aux entreprises de monter un peu en compétences et de les accompagner sur leur stratégie biodiversité et marketing territorial.
Vous avez eu une réunion de restitution pour finir un petit peu ces travaux. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous en retirez ?
C'est un peu l'aboutissement du travail qui a été mené depuis 2019 par rapport à ce projet Biodivalp, projet ProBiodiv. Le bilan est très positif, ça nous permet d'ouvrir un peu le champ des possibles par rapport à l'accompagnement des entreprises qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire au cours de nos activités dans notre structure.
Un travail également avec les CCI, CCIT et CCIR.
Exactement. Nous, on était partenaires de ce projet ProBiodiv et la CCIR était notre délégataire, c'est-à-dire qu'il mettait en œuvre des actions pour le compte de la RBE.
C'est un dispositif qui sera reconduit ?
Alors, on espère, on est en phase de réflexion et de montage de projets pour poursuivre les actions qui ont été initiées dans le cadre du projet ProBiodiv.
Daniel Simonato pour la CCI 04. Vous avez organisé Biodivalp. Comment est-ce que ça s'est passé ?
Biodivalp s'est intégré en fait dans toutes les actions que nous menons dans le cadre de notre politique et notre stratégie RSE, avec notamment le club RSE, la marque RSE Ponsable et la formation Réseo, qui est une formation d'entreprise de PME sur la RSE. Et ces programmes européens, concrètement, ils nous ont permis de faire des actions qu'on n'aurait jamais fait avec notre propre budget. C'est ça, en fait, la différence. Ils ont abondé sur des choses qu'on faisait déjà d'une manière obligatoire, entre guillemets, c'est-à-dire, par exemple, l'écologie industrielle et territoriale, de ramener des entreprises ensemble. Ça, on sait faire. Par contre, de financer des animateurs pour chacune des tables, ça, c'est quelque chose qui est arrivé avec les fonds européens. La même chose sur la fresque du climat, on peut rassembler des entreprises et des élus autour d'une table, ça c'est facile à faire. Par contre, de les faire rentrer dans un processus de co-construction autour d'un process scientifique qui est la fresque du climat, si on n'avait pas les fonds européens, on n'aurait pas pu le faire non plus. Donc à chaque fois, on a un petit plus qui nous permet d'aller plus loin dans la mise en œuvre de nos actions.
Et le vecteur principal, c'était bien sûr la biodiversité.
Oui, la biodiversité, qui il y a 3 ans encore était un mot pour les écolos, on va dire, et qui aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'essence même de l'activité sur Terre. Et les gens sont conscients de ça aujourd'hui. Il y a eu le mot écologie, il y a eu le mot transition écologique qui est venu, et maintenant il y a le mot biodiversité qui devient quelque chose à la fois de métaphorique. On sent qu'on est tous sur un substrat et que si ce substrat il est pauvre ou il est inexistant, ben, on n'a plus d'activité, on ne peut plus se nourrir, on ne peut plus vivre sur Terre. Et c'est un substrat intellectuel aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une société aujourd'hui réfléchit non plus avec la RSE comme un outil pour valoriser ses actions, mais comme un outil stratégique de gestion de ses risques. En fait, la RSE, pour nous, c'est un outil de gestion des risques, c'est un outil stratégique et c'est un outil de résilience. C'est-à-dire qu'on accompagne les chefs d'entreprise à se poser la question de la gestion de leurs risques. Et le risque aujourd'hui, c'est un risque écologique, c'est un risque financier, c'est un risque en termes de ressources humaines. Est-ce qu'on est capable ou pas d'attirer des talents et de les garder sur notre petit territoire? Et ça, la RSE permet de répondre à toutes ces problématiques. Et à l'intérieur de la RSE, la biodiversité, on le voit, et on l'a vu tout à l'heure pendant la réunion, est un outil pour attirer des talents et pour conserver des talents sur notre territoire.
Comment est-ce que vous avez sélectionné les trois entreprises pour Biodivalp?
Alors, le timing était très, très serré. On est tout à fait honnête. Donc, on avait une dizaine d'entreprises qui étaient dans une démarche forte de RSE et particulièrement dans une démarche de valorisation de la biodiversité. Et dans ces 10 entreprises, on en a contacté 6 qui pouvaient être des vrais candidats. Et dans les 6, on a pris les 3 qui ont levé la main le plus haut et qui nous ont dit on veut absolument faire partie du programme. Donc, c'est à la fois un processus ouvert et quand même très restrictif parce que le timing était serré.
Vous êtes satisfait de ce choix ?
Très satisfait, et apparemment les entreprises sont aussi satisfaites d'un accompagnement qui a été intensif sur 2 mois, mais qui nous permet de dire on aimerait refaire ça dans un avenir assez proche, donc on va essayer de retrouver de nouveaux programmes européens pour financer non plus ces 3 entreprises, mais d'autres entreprises et plus d'entreprises dans le territoire.
Par Biodivalp, ProBiodi va concerner 3 entreprises alpines qui ont affirmé leur engagement à protéger et valoriser la biodiversité. Écoutons les responsables de la brasserie artisanale de Serponçon qui utilise l'eau des écrins, puis la manufacture de four à bois et four à pain Ephrem pour son projet d'atelier culinaire et enfin la maison Brémond 1830, épicerie fine dont les salariés se sont mobilisés fortement dans le dispositif. Mais d'abord, Mylène Bonnet de la société AVEC, elle a animé Biodivalp au sein de ses entreprises. Mylène Bonnet, vous représentez AVEC, vous allez nous expliquer ce qu'est AVEC, et c'est vous qui avez organisé les réunions de concertation et de travail avec les entreprises.
Mylène Bonnet, co-dirigeante de la société AVEC, qui est l'acronyme de Augmenter votre équipe. C'est une entreprise qui a été créée en janvier 2022. Nous sommes 2 avec Pierre Méry, que vous avez rencontré également. On accompagne les entreprises sur leur sujet de stratégie marketing d'entreprise et sur tout ce qui est de l'amélioration de l'impact environnemental de leur entreprise.
Comment avez-vous procédé pour Biodivalp ?
Il faut savoir qu'on a répondu à un appel d'offres qui avait été lancé par la CCI. Et nous, notre positionnement et ce qu'on fait au quotidien avec les entreprises, c'est quelque chose de très terrain, hein, d'où l'acronyme, hein, c'est augmenter votre équipe, mais c'est travailler avec votre équipe, mettre les mains dans votre cambouis et faire des choses très concrètes. Le déroulement qu'on avait proposé, c'est une première étape de sensibilisation, de mettre toutes les équipes au même niveau sur la notion de biodiversité et après, sous forme de 3 activités, de leur aider à se poser, voir ce qu'elles faisaient aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles pourraient faire demain et comment leur activité pourrait d'une part impacter moins la biodiversité et ce qui était le cas dans certaines d'entre elles. Elles faisaient déjà pas mal de choses favorables à la biodiversité, c'est comment le communiquer à leurs clients et à leur équipe pour favoriser tout le travail qui était fait.
Donc des réunions avec les dirigeants, avec les salariés ?
C'est des ateliers en fait, de travail qui en moyenne duraient entre 2 et 3 heures où on met tout le monde autour de la table. C'est vraiment une démarche de co-construction pour savoir là, qu'est-ce qui est fait et comment et vers quoi on peut aller de mieux.
Vous avez été surprise de la motivation des personnes ?
Agréablement surprise parce qu'effectivement les dirigeants ont réussi à avoir chaque fois plusieurs membres de leur équipe avec plusieurs métiers différents, ce qui est très intéressant et ce qui apporte beaucoup de valeur aux résultats.
Un bilan positif pour vous donc ?
Alors un bilan très positif, ça a été très agréable, nous on adore travailler avec les entreprises du territoire, donc là c'était le cas dans les entreprises du 05 et du 04, qui étaient très motivées, qui ont accepté les challenges qu'on leur a donné, qui sont mobilisées malgré le timing très compliqué de fin d'année, donc expérience positive complètement.
Nicolas Garcin pour la brasserie artisanale de Serponçon, l'eau que vous choisissez pour fabriquer vos bières, c'est l'eau des écrins.
Tout à fait. Tout l'eau qu'il y a dans nos recettes, c'est l'eau qui est mise en bouteille et très connue sous le nom de Roche des Écrins. C'est une source qui a été identifiée il y a plusieurs années par la mairie de Chorges et à l'époque les moulins de Valdonne. Aujourd'hui, c'est Cristaline qui exploite la source. Mais c'est une source qui est très connue où on a une eau de qualité constante toute l'année, très surveillée. Et pour un brasseur, c'est essentiel puisqu'on va dire que 85% de la bière, eh bien, c'est de l'eau. Il ne faut pas se le cacher. Et du coup, il nous faut une eau de qualité exceptionnelle pour pouvoir faire de la bonne bière et constante toute l'année.
Qu'est-ce qui fait la qualité de cette eau, justement ?
La qualité de cette eau, c'est qu'elle sort d'un massif qui est le massif des Écrins. C'est une eau qui doit traverser plusieurs couches sédimentaires, et c'est peut-être pour ça. Mais après, on parle de la roche des Écrins essentiellement à Chorges, mais toutes les sources qui tournent autour du massif des Écrins sont des sources de très bonne qualité.
Le goût de vos bières est marqué par cette eau ?
C'est essentiel, le goût des bières est forcément marqué par cette eau. Après, dire que vraiment on ressent le goût de l'eau, ce serait vraiment aller très loin, mais je pense qu'avoir une eau de qualité sur laquelle on peut compter toute l'année, c'est très important.
Je suppose que vous le faites savoir autour de vous et à votre clientèle.
Tout à fait. Nous, c'est marqué haut et on le dit haut et fort que l'eau vient du massif des Écrins et sert à produire nos bières.
Vous racontez une histoire, en fait.
Tout à fait. On raconte une histoire et on est fiers d'utiliser de l'eau de qualité, des matières premières de qualité, le plus local possible. Et on se bat pour la filière, en tout cas en région sud.
Virginie Pesse pour la société EFREM, vous allez organiser des ateliers four à bois.
Oui, on va organiser des ateliers culinaires. On est en train de travailler sur un projet, effectivement, d'ateliers culinaires dans un de nos bâtiments, qui est notre showroom. Ça deviendra en fait un showroom interactif où on va, grâce notamment à l'aide du dispositif leader du GAL Haute-Provence-Luberon, proposer des ateliers aux particuliers pour travailler sur le four à bois et cuisiner au four à bois de la pizza, mais pas que, et proposer aussi aux professionnels et aux boulangers, parce qu'on propose en fait des fours pour les particuliers, pour les professionnels et les boulangers. On va proposer ces ateliers-là pour s'initier à la cuisson au feu de bois et pour voir qu'on peut faire plein de choses dans un four à bois.
Est-ce qu'il faut s'inscrire ?
Il faudra s'inscrire. Normalement, les ateliers seront opérationnels à partir de la fin 2023. On proposera des sessions et un programme de formation tout au long de l'année.
Pas besoin d'apporter son four avec soi ?
Non, on aura plusieurs fours à essayer. Des fours fixes, mais aussi des fours rotatifs, puisque pour les professionnels de la restauration ou pour les boulangers, nous proposons aussi des fours à sole tournante.
Alexis Bertuca pour la Maison Brémond, vous avez participé à Biodivalp et vous avez remarqué l'engouement des salariés.
Oui, tout à fait, parce que cet accompagnement, ça permet aux salariés en fait, de se retrouver autour d'un projet sur la biodiversité, et quels que soient les services. Donc nous, on avait un projet très particulier, c'était de réfléchir à un nouveau pesto, un produit où il y a du basilic, de l'huile d'olive et du pignon, et réunir différents services, donc la qualité, les achats et le marketing. Et tout le monde travaille ensemble d'un coup sur un projet très concret où on met au cœur de ce sujet la biodiversité, qui est déjà au cœur de nos enjeux, nous.
Vous avez des produits justement qui sont favorisés par les circuits courts et par la biodiversité en général.
C'est exactement ça. Nous, la biodiversité, c'est le cœur de notre activité. Quand on fait de l'huile d'olive, par exemple, nous, on transforme et on vend de l'huile d'olive. On sait très bien que ça dépend de la qualité de la biodiversité, hein, d'un sol, des agriculteurs qui travaillent avec. Donc ça, c'est déjà au cœur de nos sujets. Mais faire un atelier avec cet accompagnement, ça permet vraiment à chacun de le toucher du doigt. Et de façon plus précise, puisqu'il y avait des accompagnements avec des experts, hein, qui nous permettent de dire « Ah, c'est quoi aujourd'hui la biodiversité pour vous dans les enjeux, etc. » Donc c'était vraiment un regard extérieur ultra intéressant.
Intéressant pour les ressources humaines, comme l'on dit, mais également peut-être aussi pour vos clients, faire partager ça.
Tout à fait. Important en externe ou en interne. En externe, c'est quelque chose que j'aimerais bien apprendre, c'est mieux discuter, parler de nos récits, nos engagements, nos valeurs vers le client final, qui comprennent que dans ce produit, un pesto, un suprême de pistache, il y a tout cet engagement de filière agricole, de respect bien sûr de l'environnement et de la biodiversité.
C'est la fin de ce magazine. Merci François, à la semaine prochaine.
Merci Louis, à bientôt.